Ce qui me fait marcher dans la vie, c'est quelque chose, un état dans lequel pourtant on ne marche pas, c'est l'état d'apesanteur. Ça me passionne. Et bien qu'il ne soit pas nécessaire de marcher quand on est en apesanteur, sauf pour garder une excellente santé, j'aime beaucoup l'apesanteur et tout ce qui s'y rattache, et notamment la médecine dans cet environnement d'apesanteur.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Franck Lehaut, diplômé en médecine aérospatiale et médecine d'urgence. Franck Lehaut est intervenu dans le cadre des conférences de la Société d'astronomie de Nantes sur le thème « Les modifications de l'organisme en apesanteur ».
Votre principale formation, c'est une formation en médecine, et après c'est une spécialisation.
La médecine spatiale, c'est pas vraiment une spécialisation, on peut y arriver par différents biais, en étant ou non spécialiste. Pour ma part, je n'ai pas de spécialisation, mais plutôt une qualification, c'est-à-dire une formation complémentaire en médecine aéronautique et médecine spatiale, qui m'a permis d'apprendre les fondamentaux de la médecine spatiale.
Il n'y a pas de formation particulière.
C'est-à-dire que vous pouvez s'intéresser à la médecine spatiale, ce serait possible pour n'importe quelle spécialité. On peut imaginer un cardiologue, un pneumologue, un immunologiste, un rhumatologue, s'intéresser à la médecine spatiale, et d'ailleurs on a besoin de toutes ces spécialités pour étudier parfaitement la médecine spatiale dans chacune de ces spécialités.
Vous, ce qui vous intéresse, c'est l'aspect, je veux dire, anatomique, physique?
Moi, je suis plutôt intéressé par les modifications de l'organisme sur le plan physiologique en apesanteur, c'est-à-dire la décalcification osseuse, la fonte musculaire, la dégradation du système immunitaire. Et ça me plaît de réfléchir à l'idée de savoir si on est vraiment fait pour explorer l'espace, pour faire des voyages spatiaux au long cours, ou si les modifications dans notre corps sont telles qu'elles vont nous empêcher un petit peu d'aller très loin dans le cosmos. On se base à la fois pour la médecine spatiale sur des expériences menées dans l'espace, effectivement, qui ont commencé dès les premiers vols spatiaux. On totalise actuellement, si on cumule la durée de séjour dans l'espace de tous les humains, on totalise 145 ans de présence dans l'espace. Donc on a acquis des connaissances nombreuses qui restent à enrichir, mais déjà assez nombreuses sur la médecine spatiale dans l'espace. Et sinon, il existe ce qu'on appelle les analogues spatiaux, parce que c'est difficile d'aller dans l'espace, et on a été obligé d'inventer des moyens pour tenter de reproduire les effets de la pesanteur sur les organismes, mais sur Terre. Alors ça peut se faire, par exemple, c'est imparfait bien sûr, mais c'est une approche. Ça peut se faire par exemple en allongeant des personnes, des volontaires, dans des lits inclinés à 6 degrés avec la tête en bas. Et là on peut observer un certain nombre de modifications dans le corps qu'on retrouve dans l'espace. On peut aussi allonger les gens dans une piscine, sur une bâche. Et on peut aussi faire des expériences sur des animaux. On a des rats par exemple qu'on peut suspendre par la queue. On a aussi des appareils qui tournent, les clinostats, et qui permettent de reproduire en quelque sorte les conditions de l'apesanteur. Donc ça a à la fois des moyens spatiaux et à la fois des moyens terrestres. Et bien sûr, celui qui m'intéresse, c'est le vol 0G, puisqu'on peut faire des expériences pour des durées courtes d'apesanteur à bord d'avion aussi. Et c'est notamment l'Airbus 0G dans lequel je travaille, de la société française Nouvespace. C'est très sympa, non seulement pour y mener de la recherche scientifique, parce que c'est un moyen d'accès à l'état d'apesanteur qui est quand même assez peu coûteux et beaucoup plus facile que d'aller dans la station spatiale. Et l'autre volet de ça, c'est que désormais, le public peut aussi s'adonner aux joies de l'apesanteur et s'offrir un véritable baptême d'apesanteur, puisque ces vols sont désormais ouverts au public.
Et ça coûte ?
Ça coûte 6 000 euros. La société ne fait pas de bénéfice sur ce tarif. La seule marge de 1 500 euros est réinvestie pour diminuer, pour les scientifiques, le coût de leur vol. Donc en participant à un vol public, on aide aussi la recherche scientifique en apesanteur.
Un bon trou d'air, ça coûte moins cher. Parce que oui. Ça, c'est flippant, en fait.
Oui,
enfin, je dis que c'est sympa, mais ça a l'air d'être un peu flippant.
On peut se retrouver en apesanteur momentanément dans un trou d'air. Enfin, ça ne dure pas très longtemps.
Et là, quand on maîtrise, ça dure combien de temps ?
En avion, les paraboles reproduisent 22 secondes d'apesanteur. Et on reproduit cette manœuvre plusieurs fois dans le vol. On le fait pour les vols scientifiques 31 fois, ce qui représente à peu près 10 à 11 minutes d'apesanteur cumulées par vol. Et on reproduit ça 3 jours de suite. Et en fait, certains phénomènes sont immédiats à apparaître en apesanteur, aussi bien des phénomènes physiques que physiologiques dans le corps humain, et pour lesquels on n'a pas besoin d'attendre des jours ou des semaines pour avoir les effets qu'on souhaite observer. Dès les premières secondes d'apesanteur, on a des modifications cardiaques, des modifications génétiques, pour ne citer que ça. Et quelques secondes d'apesanteur suffisent à faire bien des recherches.
Les premiers symptômes apparaissent au bout de combien de temps ?
Les premiers symptômes sont immédiats en apesanteur. Enfin, on ne devrait pas parler de symptômes, parce que ce sont souvent, dès les premières secondes, des modifications qu'on ressent pas vraiment, qui nous gênent pas vraiment. Alors on sent bien que le sang remonte un peu à la partie supérieure de la tête. On a le visage un petit peu gonflé, les veines jugulaires gonflées, mais c'est pas très gênant. Il faut attendre beaucoup plus de temps pour en ressentir des effets gênants. On pourrait parler du mal de l'espace, par exemple, lui qui est certainement un des effets les plus gênants, rapides à arriver, puisqu'il commence quasiment immédiatement en état d'apesanteur.
Donc il y a des effets gênants et puis des atteintes à la santé. Alors au bout de combien de temps on se met en danger ?
En apesanteur, en fait, l'organisme se désadapte de la gravité, hein, telle qu'on la ressent sur Terre, et s'adapte à un autre milieu. Il y a certaines modifications qui ne vont pas gêner du tout l'astronaute, puisque en état d'apesanteur, par exemple, où les efforts sont moins... on a moins d'efforts à fournir. C'est pas très grave si les os sont un peu moins solides, si les muscles sont un petit peu moins performants. C'est une situation qui va être réversible au retour sur Terre. Elle pose problème quand on revient sur Terre pour se réadapter, mais elle va être réversible. Après, et ça c'est l'affaire de quelques modifications qui commencent quasi immédiatement, mais enfin dans les faits est mesurable au bout de quelques jours ou quelques semaines, et qui vont s'amplifier au fil des mois. Et puis il y a aussi des effets qu'on commence à entrevoir et qui poseront plus de problèmes, parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils seront réversibles. Alors on sait que pour les voyages spatiaux au long cours, par exemple, peut-être qu'on finira tous au bout de quelques années de vol dans l'espace diabétique, n'est-ce pas, avec une résistance à l'insuline, ou peut-être que le système immunitaire va dysfonctionner tellement qu'on attrapera des maladies à l'intérieur du vaisseau, on fera des réactions inflammatoires, immuno-allergiques. Donc on a à la fois des effets qui ne sont pas gênants, qui témoignent juste de l'adaptation de l'organisme à un nouveau milieu, et des effets plus problématiques qui pourraient compromettre au long terme l'exploration spatiale.
On peut s'essouffler en apesanteur, parce que je vois que vous êtes un peu essoufflé.
En apesanteur, on peut s'essouffler si on fait de l'exercice, notamment, hein, mais il n'y a pas plus de raison que ça d'être essoufflé.
Mais l'exercice est préconisé.
Oui, évidemment, l'exercice est préconisé pour, si on peut dire les choses, pour limiter un petit peu les dégâts sur les différents systèmes du corps humain qui sont impactés, comme par exemple les muscles, les os, mais aussi c'est valable pour le système cardiaque, pour le système immunitaire. Évidemment, ça paraît très important de faire 2 heures de sport par jour, c'est absolument nécessaire, mais si on considère que les 22 autres heures du jour sont des heures où finalement on est dans un état de presque totale inactivité sur le plan des efforts physiques, ben ces 2 heures de sport, ça explique peut-être qu'elles ne soient pas tout à fait suffisantes pour maintenir les diverses fonctions du corps humain en état.
Le plus long séjour en apesanteur ?
Il y a à peu près 562 humains différents qui sont partis pour l'espace, certains plusieurs fois. Donc vous voyez, ça ne fait pas encore beaucoup. Et seulement 4 d'entre eux sont restés un an ou plus dans l'espace. En fait, 3 sont restés un an. Et un seul est resté plus. C'était le docteur Polyakov, il y a déjà très 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 longtemps, qui est resté un peu plus de 15 mois dans l'espace. Et personne à ce jour n'a égalé ce record. Bien qu'on fasse des missions qui, de temps en temps, s'approchent de l'année, on n'a pas eu l'occasion de faire des durées plus longues. Donc en fait, ça ne nous permet pas vraiment d'avoir une vision de ce qui pourrait se passer dans notre organisme au bout de plusieurs années de voyage dans l'espace. On sait que ça se passe à peu près correctement pour les missions qui durent 6 mois, c'est la durée habituelle des missions dans l'ISS. Mais qu'adviendra-t-il de certains changements qui sont tolérables, qui sont supportables actuellement et réversibles quand on voyagera des années dans l'espace? Ça, il faudrait pouvoir le tester et c'est pas facile de faire des vols pour l'instant qui durent 2 ou 3 ans pour un astronaute.
Quels sont les freins? Si on tient 1 an, on peut en tenir 2, non?
Je crois que les freins, c'est le fait d'être quand même enfermé dans ces bidons qui tournent autour de la Terre, qui est, même si c'est très intéressant d'y travailler. Je crois que les astronautes qui font des missions longues sont vraiment très contents de revenir sur Terre parce que la Terre leur manque. Les odeurs, les couleurs, la nature, le contact avec les gens, les amis en direct. Je crois que ça, le facteur psychologique, est certainement l'un des facteurs les plus limitants à des séjours prolongés dans l'espace.
Qu'est-ce qu'on a constaté chez ce recordman de durée à son retour?
Eh bien, c'était un athlète, finalement, le docteur Poliakov. Et il est revenu dans une santé quand même assez remarquable, car il a vraiment adhéré à l'exercice physique qu'on lui demandait de faire. C'est quelqu'un de très solide, de très robuste, avec une volonté de faire. Et finalement, il a démontré, en tout cas pour ce qui est des principales fonctions, qu'on pouvait atteindre ce genre de durée dans l'espace et revenir en possession à peu près de toutes ses fonctionnalités. Ce qui ne sera pas peut-être le cas de tous les astronautes, car on sait qu'il y a des grandes variations entre astronautes. On sait par exemple que la perte osseuse, elle peut être de quelques pourcentages en 6 mois pour un astronaute et monter jusqu'à 15-20% pour d'autres. Donc il y a des grandes variations individuelles. Et le cas isolé de Poliakov n'est pas forcément représentatif de ce qui se passera pour des durées aussi longues.
Mais ça peut se compenser par un entraînement en amont?
Évidemment, pour que les effets indésirables, si j'ose dire, de la pesanteur sur le corps humain soient limités. On préconise un entraînement poussé avant le vol, entraînement qui va vous développer une masse musculaire, qui va vous développer une fonction cardiaque optimale, une santé optimale. Il vaut mieux partir pour l'espace en étant entraîné et en parfaite santé, en parfaite capacité d'effort, que d'être quelqu'un qui est déjà sédentaire et non actif. Voilà.
Alors qu'on pourrait se dire le contraire. C'est que s'il est non actif, il n'utilise pas plein de ressources ses muscles.
Oui, mais si on a une bonne fonction musculaire, une bonne musculature, un bon entraînement à l'effort, on se prépare quand même à mieux tolérer les conséquences de l'impesanteur.
On va pas parler des rayons cosmiques.
Effectivement, les rayons cosmiques, c'est très problématique. Notamment à l'époque où on parle du voyage vers Mars. Et on se rend compte que c'est vraiment une grosse difficulté. On augmente un petit peu le risque pour les astronautes par rapport à la population terrestre de développer des cancers et des cancers fatals. On augmente ce risque de 3%. Mais on commence aussi à comprendre que l'impact des radiations, c'est pas à mesurer uniquement en termes de cancer, mais c'est aussi, par exemple, l'impact sur le cœur et les vaisseaux. On sait par exemple que les radiations vont risquer de causer des dommages à nos artères, par exemple nos artères coronaires, et nous mettre dans des situations d'avoir des maladies cardiaques en vol. C'est un gros problème qui n'est pas encore tout à fait résolu et c'est un des principaux dangers du voyage vers Mars, évidemment.
Est-ce qu'il y a eu des études effectuées pour constater l'espérance de vie des personnes qui vont séjourner dans l'espace?
À ce jour, on n'a pas de réduction significative statistique de l'espérance de vie des astronautes. On les suit tout au long de leur vie, on leur fait des examens annuels et on n'a pas mis en évidence une diminution de leur longévité. Et rappelons-nous toujours que ce sont des individus qui sont sélectionnés pour leur bonne santé, pour leur excellente forme physique. On voit notamment les astronautes d'Apollo qui ont vécu souvent ou qui vivent encore jusqu'à des âges très avancés, 85-88 ans. Donc non, on n'a pas mis en évidence de réduction de la longévité des astronautes.
On m'a parlé de rhume des foins lunaires.
C'est une conséquence de la poussière lunaire. La poussière lunaire, si vous la regardez au microscope, ce sont des petites structures extrêmement agressives, très acérées, avec des arêtes, elles sont très coupantes. et cette poussière lunaire qu'on est obligé, qu'on n'arrive pas à ne pas ramener dans le vaisseau quand on remonte depuis la surface de la Lune jusque dans le vaisseau, parce qu'elle colle tellement au scaphandre, on n'arrive pas à s'en débarrasser, même en brossant le scaphandre. Une fois qu'elle est dans l'habitacle, elle va irriter, parce qu'on va la respirer, elle va irriter les muqueuses, et notamment les muqueuses du nez. Donc effectivement, il peut s'en suivre des éternuements, il peut s'en suivre des picotements. Et plus problématique, ce sera le fait de vivre de manière prolongée sur la Lune, avec cette exposition à la poussière, à cette poussière qui est très dangereuse et qui pourrait nous donner des conséquences assez préoccupantes, notamment sur le plan respiratoire.
On l'a toujours repéré, on l'a toujours détecté.
On l'a toujours détecté, puisque dès les premiers vols Apollo, les astronautes ont rapporté des irritations lors du voyage de retour, des irritations des muqueuses, soit au niveau des yeux, soit au niveau du nez, parfois de la toux. Donc on sait déjà, mais on le supputait déjà parce qu'on imaginait un peu la composition de cette poussière, mais on sait depuis les vols Apollo qu'elle est assez agressive pour notre organisme.
Après un long séjour dans l'espace, on pratique toujours la quarantaine ?
Ah non, ça s'est terminé. Enfin oui, à l'époque d'Apollo, on a mis, surtout lors des deux premières missions, on a mis les astronautes en quarantaine qui étaient, soit dit en passant, une quarantaine un petit peu...
Qui s'exprime.
Une quarantaine un petit peu allégée, puisque il y avait quand même des visiteurs qui étaient admis dans le laboratoire de quarantaine. Enfin bref, donc ça c'est fini. On ne met pas les astronautes en quarantaine parce qu'en considérant qu'ils risquent d'avoir apporté des germes de la station spatiale ou de la Lune. On ne les a pas mis en quarantaine, les derniers qui y sont allés. Et on ne les met pas non plus en quarantaine en considérant que leur système immunitaire est tellement affaibli qu'ils risquent de contracter des maladies. Néanmoins, évidemment, il est de bon ton certainement de ne pas aller visiter un astronaute de retour de mission si on est soi-même déjà assez malade. Et encore une fois, pour les vols spatiaux au long cours, ça pourrait être différent. Le système immunitaire pourrait être vraiment affaibli et là, peut-être nécessiter des mesures de quarantaine au retour.
Vous le présentez comme une protection vis-à-vis des astronautes, pas comme une protection vis-à-vis de la population, parce qu'on pourrait ramener des petites choses.
Pour qu'on ramène quelque chose, encore faut-il qu'il y ait des microbes alors à la surface d'autres planètes, celles qu'on va aller explorer, la Lune, qui n'est pas une planète, mais et Mars. Pour l'instant, on imagine qu'il n'y a pas d'organismes vivants, en tout cas sur la Lune, ça on le sait. Alors sur Mars, peut-être que si on identifiait du vivant, ce qui serait une découverte extraordinaire, peut-être qu'effectivement, il y aurait ce processus de quarantaine qui serait réactivé. Ça paraît probable, tant qu'on ne sait pas, qu'on n'ait pas la virulence d'éventuelles bactéries qu'on trouverait là-bas. Mais encore, bon, faudrait-il en trouver. Après, on n'en est pas là, mais c'est vrai que pour des séjours dans l'espace très prolongés, qui dureraient plusieurs années, le système immunitaire des astronautes étant très perturbé et certains microbes devenant particulièrement agressifs à l'intérieur du vaisseau spatial, devenant particulièrement virulents ou résistants aux antibiotiques, il pourrait aussi y avoir des processus de quarantaine qui soient imaginés.
On peut parler de la composition de la trousse de santé. Est-ce qu'on embarque ?
Alors déjà, il faut dire une chose, hein, c'est les voyages en orbite terrestre, c'est pas très loin du sol. On est à peu près à 400 km d'altitude et... Les astronautes, s'ils développent une maladie, ils sont évacués par un vaisseau Soyouz qui est là pour ça. Et les astronautes sont bien plus proches d'un hôpital que de nombreux terriens. Si vous êtes quelqu'un qui habite, par exemple, dans une province reculée d'Éthiopie, il vous fera probablement plusieurs jours de marche ou de transport pour rejoindre un hôpital. Les astronautes, eux, peuvent être évacués en quelques heures avec un hélicoptère qui les attend au sol et dirigés très vite vers un hôpital. Néanmoins, il faut un petit peu avoir tout ce qu'il faut pour parer à tout incident médical à bord. Donc il y a à la fois le tout venant dans la trousse médicale, soigner un mal de tête, soigner une conjonctivite, soigner un rhume, comme on en parlait tout à l'heure, ou une diarrhée, ou des douleurs de ventre. Il y a du matériel plus sophistiqué, dont un des astronautes a appris à se servir, c'est en quelque sorte celui qui fait office de médecin de bord. Alors par exemple, de quoi recoudre une plaie, de quoi soigner des dents. Il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus compliquées, comme tout ce qui est du domaine de la réanimation, comme de quoi intuber, de quoi mettre des sondes urinaires, du matériel qui est vraiment beaucoup plus lourd. Donc il y a toute la gamme de matériel depuis le traitement des bobos jusqu'au traitement de l'urgence grave.
J'ai conscience que j'ai balayé un peu plus large par rapport à la conférence, mais je profite de rencontrer mon premier médecin spécialiste de la médecine spatiale. Par rapport à la conférence, qu'est-ce que j'aurais éventuellement oublié de vous faire dire ?
Le message principal de cette conférence, c'est que la pesanteur produit des modifications sur le corps humain, dont certaines sont totalement réversibles et peu préoccupantes, d'autres au contraire plus durables, assez préoccupantes, et pour l'instant, tout se passe bien tant qu'on tourne autour de la Terre, qu'on peut revenir vite et qu'on n'y reste que quelques mois. Mais cette conférence soulève un petit peu des questions sur le devenir de l'exploration spatiale habitée, donc par l'homme, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui se passera si un individu séjourne 3-4 ans dans l'espace. Ça, pour l'instant, on n'a pas encore le moyen d'avoir des réponses, même si la médecine spatiale progresse, se base toujours sur des missions courtes ou de quelques mois. Et donc là, il va peut-être falloir envisager des solutions pour éviter certaines modifications du corps humain, comme par exemple, puisqu'on emmène notre air avec nous, notre nourriture, pourquoi pas emmener notre gravité et s'installer dans un vaisseau qui tournerait sur lui-même en reproduisant l'état de gravité qu'on a sur Terre. Mais c'est pas non plus la solution miracle, car ça soulève certaines difficultés. Voilà un petit peu le message général de cette conférence.
Quel est l'intérêt pour des missions longues d'organiser des missions embarquées, donc avec des êtres humains, pas des robots ? Ça a un impact aussi sur la recherche en médecine ?
Tout simplement que le robot n'a pas l'intelligence de l'homme. Il a une certaine intelligence, mais son pouvoir de décision et d'analyse n'est pas équivalent à celui de l'homme. Et l'homme sera toujours mieux placé qu'un robot dans l'exploration d'une contrée nouvelle ou d'une planète nouvelle.
Oui, mais l'intelligence, elle peut être guidée au sol.
Oui, il y a le cas de figure, par exemple, où pour l'exploration martienne, on pourrait se contenter de tourner autour de Mars et de télécommander depuis l'orbite martienne des drones, des rovers qui prélèvent des échantillons, qui les remontent dans l'espace. Mais rien ne vaut pour l'instant, en tout cas, l'analyse, l'expertise de l'homme. Songez, par exemple, un des derniers marcheurs lunaires qui était Harrison Schmitt sur Apollo 17. C'était pour la première fois un scientifique et mettre un géologue pour explorer la Lune, c'est juste incomparable et aucune machine ne pourra prendre sa place. Décider, là je ramasse tel échantillon, non celui-ci n'est pas intéressant, avec autant de rapidité, d'acuité, c'est pas possible.
Et le lien avec les progrès en médecine, bon, c'est pas le but visé.
Le pourquoi de la Station Spatiale Internationale, c'est beaucoup politique au départ. Pourquoi elle a été mise en place, une collaboration entre les nations, et puisqu'on a des hommes là-haut et du temps, on fait des activités scientifiques. C'est en quelque sorte, pour le corps humain, ce qui se passe en apesanteur, c'est un modèle de vieillissement accéléré, on pourrait dire. Et donc, en faisant des études sur les modifications du corps en apesanteur, on comprend mieux certains phénomènes, certains mécanismes qui peuvent survenir au cours de l'âge, ou d'autres mécanismes de modification de nos systèmes. Et c'est en ça que ça peut avoir des retombées terrestres. On comprend mieux comment les os se décalcifient, on comprend mieux comment l'origine des troubles de l'équilibre, par exemple, on comprend mieux comment les muscles perdent leur capacité. Et il y a toujours des ponts, des relations avec ce qu'on observe sur Terre et ce qu'on recherche dans les laboratoires terrestres. Donc c'est un laboratoire qui permet de comprendre des mécanismes physiologiques qui sont en quelque sorte mis en exergue par l'apesanteur.
C'est marrant d'avoir un laboratoire en apesanteur qui produit des retombées terrestres.
C'est ça. Mais vous savez que ce laboratoire, il tombe. Hein. Vous savez qu'à l'altitude de la station spatiale, on a encore 89% de la gravité terrestre. Si on arrêtait la station sur place, tous les astronautes dedans tomberaient sur le plancher de la station. Si on est en apesanteur, c'est que la station, elle tombe vers la Terre, mais on lui a donné pour compenser une vitesse initiale qui lui permet de tomber tout en restant autour de la Terre. Et c'est vraiment un laboratoire en chute libre.
Merci à Franck Lehaut, diplômé en médecine aérospatiale et médecine d'urgence, pour sa libre participation à ce programme, réalisé avec la complicité de la Société d'astronomie de Nantes.
Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant ?
Bah écoutez, c'est très sympa. Ça, je me concentre un petit peu sur les réponses, donc j'ai pas bien pu observer ces quartiers de centraux de Nantes que je connais pas du tout et qui sont très sympas. Mais j'aime bien parce que c'est un format d'interview qui est plus sympathique, plus dynamique, moins figé qu'une interview face à face dans une salle.